pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Cela fait plus de 2 ans maintenant qu'Inès Leroux tient son journal breton à partir du hameau de Couettemel, dans les Côtes d'Armor, et qu'elle enquête sur les pressions exercées sur les agriculteurs par les coopératives, la FNSEA ou l'administration. Au fil du temps, elle a constaté également que la disparition de centaines d'exploitations chaque année, voire chaque semaine, constituait en soi une des catastrophes les moins connues et les plus violentes de l'agroalimentaire breton. En 20 ans, la France aurait vu le nombre de ses exploitations diminuer de moitié. Et selon d'autres projections, en Bretagne, une ferme sur 5 aura disparu d'ici 2025, essentiellement des exploitations individuelles au profit de regroupements spécialisés dans le porc notamment. La disparition, c'est aussi le taux alarmant de suicide dans la profession. En moyenne, tous les 2 jours, un agriculteur met fin à ses jours dans notre pays. Les 2/3 ont entre 45 et 55 ans, une catégorie qui regroupe les paysans les plus endettés. La Bretagne et les Pays de Loire comptent parmi les régions les plus touchées. La disparition de Jérôme Laronze, vous vous en souvenez peut-être, s'inscrit dans cette histoire de la violence. L'homme était l'un des 12 derniers exploitants de sa commune, Sailly, en Saône-et-Loire, qui avait compté jusqu'à 70 fermes dans les meilleures années. Il avait adhéré à la Confédération paysanne, le syndicat alternatif s'était converti au bio et au circuit court. Le 11 mai 2017, il reçoit la visite inopinée d'inspecteurs des services vétérinaires de la Direction départementale de la protection de la population, la DDPP, et les 10 inspecteurs sont accompagnés de gendarmes. Les inspecteurs préparent la saisie du troupeau de l'éleveur qui refuse depuis des années de se plier aux règles de l'institution sanitaire. Jérôme prend alors la fuite et pendant 9 jours, il est en cavale. Le 19, face à 2 gendarmes qui le retrouvent, il tente à nouveau de prendre la fuite. Les gendarmes tirent, Jérôme est abattu. Et parce qu'il n'y a jamais que des bons et des méchants, soulignons également que les contrôleurs sanitaires font eux aussi les frais parfois de cette violence, puisqu'ils étaient 2 en 2004 et 1 en 2016 à être abattus par des agriculteurs lors de contrôles. La disparition, c'est donc le thème de ce nouvel épisode du journal breton, le 11e de la 2e saison intitulée « La fabrique du silence ». C'est une disparition aujourd'hui choisie, préparée et programmée. Un reportage bien sûr d'Inès Leroux, jusqu'à 14h, dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ici, on fait du maraîchage diversifié. Il y a en plein champ et sous abri. Alors, ce qu'on a commencé à planter, c'est plus ici. Donc, alors, le premier coup, c'est les épinards en plein champ, là. Après, à côté, c'est les oignons primeurs en bottes. Et après, c'est des brocolis. Et puis, sinon, on a mis des petits pois dehors. Après, il y a les côtes de bête. Et on a pu mettre, il y a 10 jours, sachant qu'on est en avril, enfin... les échalotes, les oignons de conservation et les pommes de terre primeurs. Et la semaine dernière, on a fait notre premier semis de carottes dehors.
Mes enquêtes sur les pressions, censure et autocensure dans l'agroalimentaire m'ont conduite chez Rime et Pierre, dans un coin de France secret. Car pour que leurs pratiques d'élevage survivent, Rime et Pierre, ce sont des prénoms inventés, doivent exercer, vous le comprendrez bientôt, dans la clandestinité.
J'ai 34 ans. On vend à la ferme, on a MAP et des épiceries et des restaurants. On a des cochons, pas beaucoup, hein, on en fait 4 par an. On achète les porcelets et puis ils sont en plein air avec une petite cabane. Et en fait, c'est une parcelle qu'on n'aura pas besoin de labourer parce qu'il y a les cochons qui sont passés, qui sont restés un temps là. Et du coup, ils retournent la terre, ils mangent l'herbe, ils retournent les mottes. Puis après, on n'a plus qu'à préparer le sol et puis semer ou planter, quoi. Et puis sinon après on a des oies, c'est aussi agréable, hein. C'est ça qui fait que j'appelle cet endroit une ferme, c'est parce qu'il y a des animaux, elles gambadent en liberté dans la ferme.
C'est une compagnie que vous aimez bien les oies ?
Moi j'adore, ouais. C'est très intelligent. Moi elles sont déjà venues me voir parce que j'avais pas changé l'eau parce qu'en fait, elles se lavent beaucoup. Et quand une fois, elles sont venues me voir à me gueuler après, je dis qu'est-ce qui se passe. Et puis je regarde, ah oui, j'ai pas mis l'eau. Une fois que j'avais mis l'eau, c'était réglé. Et en fait, selon leurs cris, même si je suis pas à côté, je sais ce qui se passe. Ah là, elles crient parce que il y a quelqu'un qui arrive. Elles font des petits cris quand elles sont toutes contentes de manger les feuilles de haricots verts. Et donc ça, on sait, on va voir tout de suite. C'est ah, elles sont aux haricots.
On vient d'arriver dans votre cuisine. Vous avez une énorme pile de documents, ouais. Et une calculatrice.
Ouais. Alors ça, c'est pour ma demande de RSA. Donc c'est la fiche de budget à remplir.
Parce que vous ne vivez pas de vos revenus agricoles ?
Non. Il y a plus de la moitié des agriculteurs touchent le RSA pour vivre, quoi. Voilà, et puis sinon, bah, il y a aussi les factures, hein, les factures qui arrivent. Donc ça, c'est la comptabilité. Comme j'ai demandé la DGA, il faut que j'ai une comptabilité certifiée pendant 5 ans.
Pour s'installer, RIM a suivi le parcours classique. Elle a sollicité la dotation jeune agriculteur, ou DGA. C'est un don versé par l'État qui s'est élevé dans son cas à 17 300 euros. Sans cet apport, les banques n'allouent pas d'emprunt aux jeunes agriculteurs.
Il y a 8 mois de paperasse à faire. 8 mois de formation, pas en permanence.
Pour obtenir la DGA, il y a des conditions. Le projet agricole doit être suffisamment grand et rentable, sinon il est retoqué. Il faut suivre des formations qui coûtent jusqu'à 1 000 euros. Il faut établir un plan prévisionnel de toutes les entrées et sorties d'argent de la future exploitation sur 5 ans. Et une fois installé, si l'on ne respecte pas ce plan, il faut rédiger des avenants qui coûtent environ 500 euros chacun ou rembourser la dotation.
Du coup, donc la comptable m'a menacée. Elle m'a dit, écoute, il faudrait que quand même tu arrives à tirer le SMIC parce que comme on s'engage en début de période à avoir le SMIC au bout de la 5e année, si j'ai pas atteint ce seuil, donc à me payer le SMIC, je suis censée rendre une partie de la DGA à l'État, sauf que c'est pas très possible, puisque si déjà on peut pas se payer, comment rendre des sous qu'on n'a pas.
Le bénéficiaire de la DGA doit enfin faire certifier sa comptabilité.
Mais les 17 300 euros, en vrai, ils sont partis parce que chaque année, je paye 1 300 euros de comptabilité. Et c'est ça. Et puis, c'est aussi, comme je disais, l'avenant parce que je me suis installée seule et pas en GAEC, c'était 500 euros. Le plan de développement économique à faire au début, c'est 900 euros. Donc, au final, mis bout à bout, même demander...
Aux yeux de beaucoup de jeunes agriculteurs, au bout de 5 ans, la dotation qui leur a été allouée a été entièrement absorbée par le système para-agricole, la chambre d'agriculture et les services de comptabilité. Pierre, le conjoint de Rim, est éleveur de brebis. En s'installant, il n'a pas souhaité solliciter la fameuse DJA. Il a découvert le monde paysan dans les années 90, en travaillant dans un syndicat agricole comme animateur.
Ça m'a donné l'envie de passer le pas, de me dire j'ai envie de tenter d'être paysan. Et en même temps, j'avais bien compris qu'une installation dans les clous classiques était un enfermement terrifiant, à la fois d'être un peu obligé de rentrer dans des logiques industrielles d'endettement et de s'user au boulot, quoi, en fait, et dans des fermes qui, en tout cas pour celles que j'avais fréquentées à l'époque, ressemblaient pas du tout à ce que je voulais faire en termes d'agriculture. Du coup, je me suis lancé, mais en essayant d'être hors des clous, c'est-à-dire en acceptant de le faire beaucoup plus progressivement, parce que la DGA, tout de suite, elle impose d'être tout de suite productif, en fait, et de gagner le SMIC tout de suite, enfin, de dégager un chiffre d'affaires conséquent tout de suite. Et du coup, moi, par exemple, quand j'ai souhaité m'installer en élevage de brebis, si j'avais dû le faire avec un dossier qui serait validé pour la DGA, j'aurais dû m'installer avec 200 brebis. Il y a que ça qui passe dans leurs chiffres, dans leurs calculs, gagner le SMIC, quoi. Donc en dessous, forcément, on n'est pas crédible, donc on n'a pas les aides, donc voilà, on n'est pas.
Pas crédible, c'est-à-dire ils envisagent que vous n'êtes pas rentable.
Voilà, c'est ça. Donc moi, je voulais pas du tout me démarrer du jour au lendemain avec 200 brebis. Donc j'ai démarré petit à petit, en trouvant des terres petit à petit. Donc j'ai démarré avec 3 hectares, avec 11 brebis, puis je suis passé à 25, j'ai augmenté un petit peu le nombre d'hectares et j'ai fini par avoir une cinquantaine. Sur une douzaine d'hectares, bien en dessous en fait du niveau de rentabilité défini par la chambre d'agriculture, mais quand même ça me permettait de gagner un peu de sous et du coup autant dire que j'en vivais pas non plus exclusivement, Du coup, moi, je suis devenu paysan sur le mode de la manière dont on était paysan au début du XXe siècle, c'est-à-dire forcément en n'étant pas que paysan. J'ai été maçon, couvreur en même temps. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir, en fait, dans cette période-là. Parce que voilà, mes 50 brebis m'autorisaient de passer vraiment du temps avec elles, de pouvoir mener un élevage en plein air. Et de fait, aujourd'hui, pour rentrer dans les clous, en fait, il faut avoir un certain niveau de productivité. Et ça, ça veut dire d'engraisser les agneaux, pas seulement à l'herbe, mais aussi au grain. Donc, les enfermer une partie de l'année. Du coup, c'est, voilà, c'est le 100% pâturage en plein air tel que je le pratique. Ça rentre pas. Et voilà, moi je voulais pas de ce système-là, je voulais un système plein air, je voulais pas un système enfermé, où je sais très bien que les maladies sont beaucoup plus compliquées à maîtriser, parce que dès qu'on concentre des animaux dans un milieu fermé, on concentre les maladies. Et j'avais envie aussi de travailler sur le pâturage comme automédication en fait des brebis par leur propre alimentation, ce que j'ai réussi à faire au moins sur les brebis adultes qui depuis plus de 10 ans maintenant à part n'ont pas eu à connaître de vermifuges ou de médicaments industriels parce que voilà, il y a une immunité qui s'est fabriquée avec le pâturage et avec le fait de ne jamais les traiter quoi.
Pierre touche environ 5000 euros par an de revenus. S'il avait suivi un parcours classique d'installation, il n'aurait sans doute pas mieux gagné sa vie. Comme Rim l'a dit, plus de la moitié des agriculteurs vivent aujourd'hui du RSA. Par contre, il aurait eu beaucoup plus de travail sur sa ferme. Au fur et à mesure des années, Pierre est rattrapé par la pression administrative qu'il cherchait à éviter. Suite aux différents scandales sanitaires qui émaillent l'agroalimentaire, comme celui de la vache folle, les normes dites de biosécurité imposées aux agriculteurs se multiplient. Depuis 2005, Pierre doit déclarer par internet et sous 7 jours les déplacements, les naissances et les morts dans son troupeau. Mais il ne le fait pas. Il ne met pas non plus de boucle électronique aux oreilles de ses brebis, alors que c'est obligatoire depuis 2010. Il n'est pas très branché internet, et pour lui, l'équipement informatique ne fait que prélever le peu d'argent que gagnent les agriculteurs pour le transférer vers les industriels.
J'étais de plus en plus soumis au contrôle de l'administration, même si j'essayais, moi, de passer à travers. À un moment donné, notamment la question de l'identification des brebis et l'obligation de mettre des puces électroniques aux oreilles des brebis, j'ai pas voulu m'y soumettre, sauf que l'administration ayant constaté que j'étais réfractaire à ça, tous les ans est venue vérifier si je me mettais aux normes. Chaque année, elle a constaté que je le faisais pas, de manière volontaire. J'ai senti à un moment donné qu'il était temps que je prenne une décision de savoir soit je me mettais aux normes, soit je disparaissais. Il y avait deux façons de disparaître. Et soit j'arrête d'être éleveur, soit j'arrête de déclarer le fait que je sois éleveur, en fait. Et c'est cette option-là qu'on a choisie en amenant les brebis sur la ferme où on mène le maraîchage. Et aujourd'hui, donc, plus aucune de mes brebis n'est déclarée. C'est une sacrée précarité, une menace permanente d'être découvert par l'administration. Mais en même temps, ce que ça nous permet aujourd'hui, en fait, c'est de tuer les bêtes nous-mêmes, de les découper nous-mêmes.
Sinon, vous êtes obligé de passer par l'abattoir.
On est obligé de passer par l'abattoir, ce qui est pour moi hors de question. Et l'ayant fait au tout début de mon activité, je trouve ces endroits-là absolument sordides. C'est des métiers que je voudrais pas faire et je veux pas laisser mes bêtes dans des ambiances comme celle-là. Et l'autre avantage que ça a de le faire nous-mêmes, en fait, c'est d'une part qu'on fait les choses de A à Z, qu'on accompagne nos agneaux jusqu'au bout, qu'on le fait dans des ambiances pas du tout stressantes comme à l'abattoir. Et en plus, ça n'a pas de coût. C'est que c'est quand même des coûts non négligeables d'amener les bêtes à l'abattoir et de les faire découper à l'abattoir. C'est des frais de déplacement importants. C'est à peu près, on va dire, la découpe plus l'abattage, 50 euros par agneau. Sachant qu'un agneau, moi, je le vends au mieux 200 euros. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un quart de la somme qui part dans l'abattoir et la découpe. Là, aujourd'hui, cette somme-là, on la garde pour nous. Donc il y a un quart, avant, ça partait à l'abattoir. Aujourd'hui, c'est une manière pour nous de nous rémunérer. En fait, on se fait payer notre travail de boucher, quoi, en fait. Et sauf qu'on sait très bien que c'est là qu'il y a aujourd'hui de l'argent en agriculture, c'est pas dans la production de matières premières, c'est dès l'instant où on transforme, c'est là qu'on est payé. C'est malheureux à dire, mais il n'y a plus que cette activité-là aujourd'hui en agriculture qui est payée. Donc on l'a gardée sur la ferme aujourd'hui, c'est nous qui le faisons. Et ça nous donne, voilà, une liberté. Ça fait qu'on gagne enfin des sous avec nos agneaux aujourd'hui, ce qui n'était pas très peu le cas avant. Le bilan comptable est le même, en fait, c'est juste qu'on fait plus tourner la machine et que tout est pour nous, quoi, en fait, et que c'est pas rien.
France Culture, les pieds sur terre.
Devenu clandestin, Pierre perd les subventions qu'il recevait de l'Europe, environ 2000 euros par an. Mais ces subventions servaient surtout à payer ses cotisations à la Mutualité sociale agricole et à l'EDE, l'établissement départemental de l'élevage, deux services publics co-gérés historiquement par la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, connu pour son idéologie productiviste. La clandestinité est donc un de l'or financièrement pour lui. Il ne perd pas ses droits à la sécurité sociale et à la retraite, puisque de toute façon, son statut de petit paysan cotisant solidaire ne lui permettait pas d'y accéder. Et puis, il économise les frais de transport, les frais d'abattoir, et bien d'autres choses encore.
Le fait d'être autonome de A à Z à cet endroit-là, en fait, nous permet en fait de récupérer des parties de l'animal, en fait, qui, si ça part en abattoir, jamais on les revoit, c'est-à-dire notamment la tête, c'est-à-dire les tripes, et qu'en fait on s'est spécialisé depuis quelques temps à faire des mets absolument succulents à base de tripes d'agneau. Et aujourd'hui, en fait, plus personne ne mange de tripes d'agneau, en fait, parce que bon, c'est vrai que peut-être dans nos contrées c'était moins traditionnel, mais de toute façon, quand ça part à l'abattoir, tout ça et le fameux cinquième quartier que s'accapare l'abattoir, sur lequel il fait un petit complément de chiffre d'affaires, ou soit c'est revendu à l'industrie pour les croquettes pour chiens ou chats, soit c'est vendu à des bouchers, parce que quand même ces bas morceaux, comme on dit, sont quand même des morceaux que beaucoup de gens trouvent succulents, et notamment les têtes d'agneaux. Et les langues d'agneau, c'est absolument divin. Enfin, toutes ces parties-là, aujourd'hui, ça appartient à l'abattoir. Alors que sur nos bêtes, on a eu à le vivre avec une vache qui est partie à l'abattoir. On s'est fait voler, en fait, tous ces bas morceaux, comme on dit. En fait, on s'est fait prendre la tête, on s'est fait prendre les tripes.
Si on voulait récupérer les joues, il fallait payer 5 euros par joue.
Oui. Mais tout ça, c'est légal, vous dites voler, mais c'est du vol
oui,
légal.
Oui, c'est un vol légal. Face à tout ce système mafieux qu'est un abattoir, on a décidé de s'en tenir à distance, en fait.
J'aimerais juste rajouter quand même que la vache donc, qui était bouclée, qui était dans les clous, machin, elle a dû aller à l'abattoir. Et je pense que c'est la dernière fois que j'ai envie de voir un de mes animaux aller à l'abattoir, parce que... En fait, la bête a été cherchée par une boîte qui s'occupe de chercher les animaux, parce que nous, on n'a pas de bétaillère. Donc, la personne vient le samedi après-midi et l'emmène le lundi matin à l'abattoir. Donc, pendant 2 jours, moi, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas où elle est. Elle est stockée pendant 1 jour et demi. C'est plus déchirant, ça, que de tuer sa bête soi-même qu'on connaît et qu'on aime quand même.
Depuis que leur élevage est devenu clandestin, Rim et Pierre tuent eux-mêmes leurs agneaux, dehors, car c'est en plein air qu'il y a le moins de concentration bactérienne, et donc de risques toxiques. Leur troupeau a baissé de moitié, ils n'ont plus que 25 brebis, ce qui leur rapporte toujours 5000 euros par an.
Et en cas de maladie exceptionnelle comme la fièvre catarrhale ovine, il y a aussi des obligations sanitaires qui nous tombent dessus, soit de vaccination, mais ça nous on n'a jamais... accepter ces obligations vaccinales, mais t'es, normalement, tu es aussi censé vacciner, faire venir le véto, enfin tout ça, c'est des frais supplémentaires, et c'est surtout un système qui casse tout le travail qu'on a essayé de faire sur l'immunité du troupeau. Dès l'instant où il y a des obligations vaccinales, le vaccin, en fait, il vient perturber toute cette immunité acquise du troupeau, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, sur le petit revenu qu'on dégage, le petit chiffre d'affaires de 5 000 euros avec l'élevage de brebis par an, je pense que sur ces 5 000 euros, si on était dans le système entièrement déclaré, je pense qu'il y a plus de 3 000 euros qui partent dans ces dépenses qu'aujourd'hui on garde pour nous, quoi, en fait. Continuer à avoir, nous, ce petit troupeau de brebis en étant entièrement dans les clous, autant dire qu'on travaille juste pour le plaisir de proposer de la viande de qualité à des consommateurs, mais on ne travaille absolument pas pour nous, quoi, en fait. Là, aujourd'hui, on a l'impression de travailler pour nous. Et en plus de faire plaisir à des mangeurs de viande.
Alors, votre système de vente, comment il se passe puisque vous êtes dans l'illégalité?
Du coup, c'est que du bouche à oreille, hein. Et voilà, aujourd'hui, nos seuls clients sont des complices, en fait, de notre illégalité. Tout le monde le sait. Et tout le monde est content d'y participer parce que voit le sens que ça a, en fait, notamment de se passer de l'abattoir. Et du coup, ça nous renforce, en fait, aussi d'avoir non plus seulement des clients, mais des complices de cette illégalité. Ce qui fait qu'on se sent moins seul, en fait, et moins vulnérable face à l'administration, parce que le jour où on a un contrôle, On sait que les gens qui mangent notre viande d'agneau, il y a des chances qu'ils soient avec nous, solidaires, derrière, pour faire face à l'administration.
C'est quoi un contrôle de l'administration ? Ça se passe comment ?
Ça se passe qu'on est quand même prévenu avant par l'administration. Du coup, la plupart du temps, on a 2 jours pour s'y préparer. De toute façon, là, aujourd'hui, si on a un contrôle, on ne sera pas prévenu à l'avance, puisque je ne suis pas agriculteur officiellement. Donc ça, là, ça veut dire que c'est les gendarmes qui débarquent directement, en fait. C'est même plus l'administration, en fait. C'est parce que je suis déjà dans une procédure pénale potentielle, en fait. C'est évident que s'ils débarquent, ça veut dire qu'ils ont été saisis de notre illégalité. Donc sans doute le procureur a déjà été informé et que c'est lui qui lance la procédure. Et la procédure, du coup, c'est l'enlèvement du troupeau. Et ça, pour moi, il serait hors de question de subir ça. On sait que ça se multiplie aujourd'hui dans les campagnes. L'administration n'a rien trouvé mieux aujourd'hui pour emmerder les paysans que de considérer que le défaut d'étiquetage, de traçabilité, en fait, est considéré aujourd'hui comme de la maltraitance animale. Donc il y a de plus en plus de paysans qui se font enlever leurs animaux aujourd'hui sous ce prétexte-là, de pas d'identification, donc maltraitance animale. Qu'est-ce que deviennent ces animaux ? Ils partent à l'écarissage, ils sont tués directement. C'est une bonne manière de régler la maltraitance animale.
Et donc ils sont même pas consommés, ils sont détruits, quoi, oui. L'écarissage.
Rim et Pierre, ainsi qu'une partie de leurs clients, ont rejoint Hors Normes, un collectif créé suite à la mort de Jérôme Laronze, ce jeune éleveur de bovins, harcelé administrativement pour défaut d'étiquetage de ses animaux, et tué par des gendarmes en Saône-et-Loire en mai 2017. Selon le collectif, les normes, sous prétexte d'écologie et de sécurité sanitaire, oblige les agriculteurs à s'équiper de machines et donc élimine les petits paysans qui ne peuvent s'endetter et libère des terres pour les plus gros. Les normes de biosécurité favorisent finalement l'industrialisation de l'agriculture qui est pourtant la cause réelle des scandales de la vache folle, de la viande de cheval dans les lasagnes ou des salmonelles dans les produits de Lactalis et de la Coperle. Le collectif Hors Normes met en place des chaînes téléphoniques réactives en cas de contrôle de l'administration dans les fermes, afin que ces contrôles se fassent sous la surveillance citoyenne. Un peu sur le modèle du réseau Copwatch, qui surveille la police pour dénoncer ces dérapages.
Et voilà, et l'idée c'est sans doute, le jour où les sanctions tombent par courrier, d'être capable d'aller occuper à plusieurs l'administration concernée pour obtenir la suppression des sanctions. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'autres moyens que cela, mais on voit bien en fait que l'administration est beaucoup plus encline à sanctionner face à des gens isolés que face à des gens organisés en fait. Et du coup, aujourd'hui, légalement, en fait, le paysan qui est contrôlé, en fait, il a le droit d'être accompagné seulement d'une personne. Donc, en fait, à chaque fois qu'on est plus nombreux, en fait, l'administration peut considérer qu'il y a refus de contrôle. Pour l'instant, justement, cette présence collective fait que l'administration se sent pas de considérer la présence collective comme un refus de contrôle, parce qu'elle a peur sans doute des suites de la mobilisation. Mais en tout cas, voilà, ça commence à être bien quadrillé pour essayer de faire en sorte que les contrôles se passent le plus tranquillement possible sans notre présence.
Vous décidez de disparaître au niveau de l'administration, et comment ça se passe concrètement de disparaître ?
Il y a eu une histoire de séparation dans ma vie, du coup le troupeau s'est retrouvé à changer de ferme, et je me suis dit, tiens, c'est peut-être une occasion à saisir, mon troupeau déménage, ils vont plus savoir où il est, quoi. C'est vrai que si j'étais resté sur les terres que j'avais au début des années 2000, l'administration aurait eu une certaine facilité à venir vérifier si vraiment mes brebis avaient disparu. Ce déménagement, je pense, a fait que l'administration a perdu ma trace, parce que les terres sur lesquelles on est ne sont pas déclarées non plus. Donc je n'existe plus pour personne, en fait, en tant qu'agriculteur, ni pour la MSA, ni pour la DTTM, l'administration agricole.
Mais pourtant, l'administration en général a bien trace de vous.
En général, oui, c'est-à-dire les impôts savent que j'existe et où j'habite, mais ne savent pas que je mène une activité agricole. Du coup, ça ne déclenche pas la mobilisation des services de l'administration agricole. Et en fait, bon, ça a été assez comique parce que je me suis rendu compte que c'était auprès de la MSA, notamment, la Mutualité Sociale Agricole. Ben, c'est presque plus compliqué d'arrêter d'être agriculteur que de le devenir. Parce que, en fait, pour pouvoir arrêter d'être agriculteur aujourd'hui, il a fallu que je produise des papiers comme quoi mon troupeau avait disparu. Donc que j'avais vendu mes bêtes. Je m'attendais pas trop en fait à cette obligation de documents. Je pensais que ma parole suffirait en fait, le fait que je leur dise que je n'ai plus de bêtes. J'ai mis un temps à trouver la stratégie quand même pour savoir comment produire des papiers comme quoi mes bêtes ne m'appartenaient plus, du coup comme quoi je les avais vendues. Du coup j'ai dû faire toute une série de faux papiers en fait en faisant des factures de vente de brebis à des personnes qui n'existent pas. Pour pas non plus qu'ils aillent contrôler des vraies personnes, quoi, en fait. Et du coup, mon troupeau, il a disparu comme ça, en fait, en étant vendu à des gens qui n'existent pas, quoi. C'est pas une manière très classique d'arrêter. Généralement, il y a un acheteur du troupeau, et puis c'est facile pour eux de tracer, quoi. Là, ils étaient un peu embêtés, parce que d'un seul coup, le troupeau était disséminé un peu partout, chez des particuliers, personne n'était agriculteur. Il n'y avait plus possibilité de remettre la main sur les brebis, en fait, de continuer à les tracer classiquement. Pour pouvoir être repris en main par l'administration, il n'y a pas d'autre biais que je pense qu'une certaine dénonciation, puisque en fait ils savent pas du tout où j'habite. Donc voilà, enfin, en tout cas c'est pas impossible qu'ils me retrouvent. Et c'est pour ça qu'on est prêt aussi au combat collectivement, quoi, en fait, parce qu'on se laissera pas enlever notre troupeau comme ça.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec le journal breton. 11e épisode de la 12e saison. Un reportage, bien sûr, d'Inès Leroux, réalisé par Clémence Grosse. Merci à Rime, à Pierre et à Alice Sternberg. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Céline Autain, c'est notre stagiaire.